L'expérience commence. En 1928, le cinéaste américain Samuel Fuller a 16 ans. À l'époque, il est jeune journaliste et il suit une affaire qui va le marquer à vie, le procès et la mort de Ruth Snyder, première femme à être exécutée sur la chaise électrique pour le meurtre de son mari avec la complicité de son amant. Samuel Fuller est ensuite devenu le cinéaste que l'on connaît, icône de la nouvelle vague, maître du film noir. Mais ce n'est qu'en 1993, alors qu'il a plus de 80 ans, qu'il écrit dans son appartement parisien un ultime scénario, The Chair versus Ruth Snyder. Un scénario inédit, jamais réalisé, hanté par l'histoire de cette femme criminelle et de cette mise à mort. La fleur du mal de Samuel Fuller, par Ludovic Chavarro, la réalisation est signée Céline Terce.
Just a prawn.
And why did you bring her here?
I didn't want you to kill him. I didn't want you to go to the chair.
Why? You girls are always chasing dreams.
I wouldn't be kept by you if you gave me $1,000,000.
La fleur du mal de Samuel Fuller.
You'll get the chair.
The electric chair. The electric chair. Right into the electric chair.
Her passionate life was the barometer of a turbulent America from 1914 to 1928.
La vie de Ruth Snyder a été au diapason des turbulentes années folles américaines.
She was 33 when
elle n'avait que 33 ans lorsqu'elle fut sanglée à la chaise pour le meurtre de son mari de 46 ans. Le lendemain, une photo prise clandestinement au moment précis de l'électrocution fit la une du New York Daily News et choqua la nation entière. De la grande star du cinéma Peggy Hopkins Joyce à Billy Sunday, l'évangéliste le plus populaire de l'Amérique bigote, toutes les personnalités de l'époque désiraient couvrir ce procès qui devint le grand cirque de sexe et de meurtre. La première expérience d'exécution par l'électricité sur une dinde de 5 kilos en 1773 allait donc amener à électrocuter en 1928 une jeune femme qui était la mère d'une petite fille de 9 ans. Pour la première fois aux États-Unis, l'affaire Ruth Snyder a déclenché un débat national sur la peine capitale. Elle quitta seulement une fois la première page lorsque Lindbergh réussit l'exploit de traverser l'Atlantique en avion. Pour une partie de la population américaine, Ruth Snyder devint le symbole de la femme libérée des années 20. L'émancipation féminine fut d'ailleurs sa flamboyante ligne de défense durant tout le procès. Mais l'État de New York étouffa son cri en la grillant salement sur la chaise. Dans ce film, vous serez Ruth Snyder pendant 14 ans. Vous partagerez ses aspirations complexes et ses tourments depuis l'année 1914 jusqu'à vous asseoir avec elle le 12 janvier 1928 pour littéralement griller sur la chaise alors que 1000 volts traverseront votre corps. Enfin, vous serez amené à juger si Ruth Snyder méritait d'être exécutée pour avoir assassiné son mari avec son amant. Vous jugerez si elle était folle d'avoir mené son combat pour toutes les femmes dans le monde. Every man for herself.
Who are you? What's your name?
Ruth Snyder.
Ruth
you doing?
I'm an American film director. My name is Samuel Fuller. I'm here to make a picture in Paris called Flowers of Evil.
C'est Monsieur Samuel Fuller. C'est un Américain, c'est un producteur de cinéma. Il est là pour faire les fleurs du mal.
Pour le dire, c'est bien.
The film is like a battleground.
C'est comme une bataille pour le film.
Yes. Love.
L'amour.
Hate.
La haine.
Action.
L'action.
Violence.
La violence.
Death.
Et la mort.
Oh.
Fuller, Sam Fuller, le piano, Noël Simsolo et moi-même. C'était chez lui,
Jean Narboni,
à Saint-Philippe-du-Roule, rue de la Baume, où il a habité pendant plusieurs années. Mais Fuller a d'abord compté énormément dans les cahiers du cinéma, la revue à laquelle j'ai appartenu. Et c'est en Europe que Fuller a été absolument consacré du point de vue de la critique. Je ne parle pas de l'accueil public, puisqu'il a eu beaucoup de succès public aux États-Unis. Et Godard a écrit sur lui, Truffaut a écrit sur lui. Bon, je crois que c'est la troisième fois, au moins, qu'il connaissait Paris. C'est là qu'il rencontre Christa, il tombe amoureux, etc., que l'histoire se noue. Et c'est là le moment de Pierrot le Fou, où Godard lui demande de donner sa définition du cinéma. C'est un cas unique dans Hollywood. Quelqu'un qui a fait la Deuxième Guerre mondiale, comme fantassin, qui a débarqué en Afrique du Nord fin 1942, qui ensuite a débarqué en Normandie à Omaha Beach, où sa section a perdu à peu près la moitié de ses hommes en l'espace d'une heure, qui survit à ça. Il a vécu dans un univers de violence constamment, dont il est le reflet, alors baroque. Et le moment où nous l'avons rencontré, c'est après les mésaventures survenues à White Dog. Le film n'a pas été distribué aux États-Unis, il a été distribué en France. Bon, Fuller, déçu, furieux, amer, vient à Paris. Il pense y rester un an ou deux et faire un film. Et c'est entre 82 et 95, il y reste 13 ans.
Je traîne avec les gens des cahiers du cinéma. Et surtout avec Claude Chabrol. Et il m'avait engagé dans Le Tigre aime la chair fraîche.
Christa Fuller.
On a vécu quand même pas mal rue de la Baume. Et mon mari a souffert du post-traumatic stress. Il s'est jamais fait soigner pour ça. Et donc, il avait besoin de s'isoler. Et quand il écrivait, je lui ai apporté sa bouffe. Et je l'ai mis à côté de sa machine à écrire. Il avait besoin de beaucoup de solitude et beaucoup de temps pour lui, pour réfléchir. Il joue la musique de Beethoven, tout douce. Et il écrivait sur sa machine à écrire royale.
Devenu un auteur-réalisateur reconnu à Hollywood, j'aurais dû dormir tranquillement dans mes draps en soie. C'était loin d'être le cas. Toutes les nuits, je tournais dans tous les sens, torturé par des cauchemars horribles. Des souvenirs terribles de la guerre, enfouis dans mon esprit, me revenaient dès que je m'endormais. Des tas de cadavres, des explosions, des soldats déchiquetés, une main décharnée tendue vers le ciel, comme pour appeler au secours.
Daily News, Monday, March 21st, 1927. Art editor found murdered.
Un directeur artistique retrouvé mort.
Le cas Ruth Snyder, je pense, a été d'abord découvert par Fuller comme tout le monde, c'est-à-dire par la presse, hein, par l'énorme couverture presse que cette affaire criminelle a entraînée pendant
Franck Lafont.
Une dizaine de mois, entre le mois de mars 1927 et puis le moment de l'exécution, le 13 janvier 1928. Donc pendant 10 mois, même s'il y a eu certains creux, la presse a fait ses choux gras de cette affaire. Et donc Fuller, très jeune encore à l'époque, même s'il était en bas des échelons et qu'il n'était pas encore lui-même reporter, a déjà vendu, au moins, touché concrètement certains de ses journaux qui parlaient de ce fait divers qui a vraiment défrayé la chronique pendant cette période où Fuller était journaliste à New York.
Wife tied up, says burglars killed mate, by Jay Cassino. Albert Snyder, directeur artistique de Motorboating, a été trouvé assassiné hier dans son lit à son domicile au Queens Village. Il avait été frappé sur le dessous de la tête et le meurtrier avait tordu un bout de fil de fer autour de la gorge et l'avait attaché à l'arrière. Ses mains étaient liées avec un bout du même fil et ses pieds attachés avec sa cravate. Un bâillon avait été enfoncé dans sa bouche. Son épouse, Madame Ruth Snyder, interrogée tard hier soir par le commissaire et d'autres agents de police, a été retrouvée dans le couloir juste à l'extérieur de la chambre de son mari. Madame Snyder a déclaré que les meurtriers avaient pillé la maison et avaient volé son manteau de fourrure et $130 qui étaient dans la poche de son mari. Madame Snyder était hystérique la plupart du temps. Elle s'évanouissait souvent. Il était difficile de l'interroger.
Daily News, Tuesday, March 21, 1927. Lover slew Snyder, wife says.
Mon amant l'a tué, déclare l'épouse. Gray, l'amant, est vendeur de corsets pour la société Benjamin & Jones à New York. Quand il n'est pas sur la route, il vit avec sa femme, Madame Isabella Gray, et une fille, Jane, 10 ans.
Mon mari était adolescente quand il faisait une collection des gens qui se suicidaient. C'est comme ça, il a connu tous les pickpockets de New York, il a connu les gens qu'il a décrits dans ses scénarios. Il a connu un homme comme Richard Widmer qui gagnait sa vie comme pickpocket, qui habitait comme ça, qui était une espèce d'outlaw. Il les a rencontrés, il traînait dans les rues de New York, et il était fils d'immigrants, et il n'y avait pas de père, mais il y avait 7 enfants, et Sam, quand il avait 11 ans, il a pris son parapluie quand il pleuvait à la station de métro. Il a attendu les gens et il a dit « Est-ce que je peux vous accompagner avec un grand parapluie pour avoir quelques centimes pour acheter le pain et ramener le pain à sa mère ?» Et Sam, il travaillait pour le tabloïd avec John Huston et donc il circulait vers les morgues. Il y avait une morgue très fameuse. Et il a découvert cette fameuse actrice, Jean Eagles, à la morgue. Et il a fait un scoop, son premier scoop, première page. Et à l'époque, on ne pouvait pas dire qu'une actrice célèbre se droguait.
J'ai été élevé à Manhattan. Mon rêve était de devenir journaliste. Je me souviens qu'à la sortie de l'école, j'arrêtais un camion dans la rue pour qu'il me conduise à un endroit magique appelé Park Row. Avec d'autres vendeurs de journaux, nous allions chercher des numéros que nous vendions en différents points de la ville. Je me revois planté au milieu du Brooklyn Bridge, rêvant au monde gravitant autour de l'île de Manhattan, gonflé de ce qu'on a coutume d'appeler un sentiment cosmique de l'univers.
Hello,
was a very interesting time. If you...
Jérôme Carignon.
The 20s were a breakthrough period. It was also a breakthrough period for art.
C'était une époque passionnante. Les années 20 étaient une période de croissance, mais c'était aussi une période fructueuse pour l'art. Il y avait les écrivains Faulkner, Hemingway et Fitzgerald avec Gatsby le Magnifique. Ce roman reflète parfaitement ce qu'étaient les années 20, l'histoire de quelqu'un qui s'invente littéralement lui-même. Une telle concentration d'argent produisait ce genre de réussite. Dans les années 20, il y avait des voitures de dingue. L'une d'entre elles s'appelait la Rolls, fantôme d'argent. Une autre se nommait Spectre. Il y avait des voitures comme on n'en avait jamais vu auparavant et comme on n'en verrait plus. Dans les années 20, pour la première fois, la criminalité allait de pair avec une extrême richesse, comme Al Capone.
Le bar clandestin de Walter était un endroit plutôt luxueux. Il y avait de grands miroirs et des tableaux de femmes nues au mur, une piste de danse, un petit orchestre et de jolies hôtesses à qui vous glissiez un pourboire généreux. Un dollar passé entre plusieurs mains en un éclair. Tout cela était très excitant pour l'adolescent que j'étais. J'ai fréquenté de nombreux bars clandestins. Il y avait le Andy Horn's Café, le Lipton's, le Mike's et le Hess's, un bar ouvert toute la nuit. L'agencement des lieux était généralement le même partout, un bar, des crachoirs, des tables et plein de tasses à thé pour servir l'alcool. Les verres étaient tabous car ils étaient des éléments à charge en cas de descente de police. Le gin était surnommé la rosée de la prohibition.
Angel foam goes down like liquid gold, and it comes up like slow dynamite.
Ruth Snyder a exercé sur moi une influence durable.
All right, everybody, let's take a 10-minute break.
Fuller commence et est complètement pétri par la presse. Il commence en vendant des journaux au coin de la rue, comme beaucoup de gamins de son âge, et puis petit à petit, et très tôt, beaucoup trop tôt d'une certaine manière, il devient reporter criminel, il va assister à des exécutions capitales. Quand il devient vraiment journaliste, c'est-à-dire quand il a gravi tous les échelons, il va travailler au New York Evening Graphic, qui a existé très peu de temps, qui a existé de 1924 à 1932. C'est un tabloïd, c'est-à-dire que c'est un journal d'abord qui est fait pour les milieux citadins. C'est le format tabloïd est censé être plus facilement lisible dans les transports en commun. Et puis c'est aussi un journal qui s'inscrit dans une presse sensationnaliste. Ça veut dire d'abord une recherche de sujets, mais aussi, et c'est aussi le deuxième point très important pour Fuller, c'est-à-dire une mise en page, un aspect visuel, proprement visuel, qui est conçu pour percuter le spectateur. Ce qu'on lui a reproché d'ailleurs, parce que c'est une presse qui est mal perçue, bien sûr, la presse des tabloïdes, et comme aujourd'hui elle est mal perçue, elle était mal perçue à l'époque, et d'ailleurs le New York Evening Graphic a été surnommé le pornographique, parce que c'était considéré comme vraiment le pire des tabloïdes en existence à cette période-là. Et effectivement, Fuller s'est formé dans ce type de presse.
The Brooklyn Daily Times, Monday, March 21, 1927. Editor's wife confesses murder plot.
La femme du directeur artistique confesse l'assassinat.
Brooklyn Daily Eagle, March 22, 1927. Gray says Snyder was slain for his $25,000 insurance policy.
Gray, l'amant, dit que Snyder a été tué pour son assurance de $25,000.
New York Times, Syracuse, NY, March 25th, 1927.
Je crois que Mme Ruth Snyder a hypnotisé Judd Gray, a déclaré Adam Green, ami de Judd Gray, aujourd'hui à son retour de New York City.
He admits to New York detectives that he helped fix Gray's alibi in the Snyder murder.
Il admet aux inspecteurs de New York qu'il a aidé à préparer l'alibi de Gray dans le meurtre de Snyder.
The Brooklyn Daily Eagle, Monday, May 2nd, 1927. Ruth Snyder fights like a tiger and clings to story.
Ruth Snyder se bat comme une tigresse et s'accroche à sa version des faits.
Sunday News, Sunday, March 27, 1927. Perfect crime ruined. Le crime parfait tombe en miettes.
Ruth Snyder, c'est un cas qui semble banal et qui en même temps est assez qui sort de la norme. Un cas banal, une femme qui, avec son amant, tue son mari finalement. Aujourd'hui, surtout, c'est une histoire qu'on a pu voir de nombreuses fois déclinée dans les romans, au cinéma, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'en 1927, quand ça se produit, d'abord, lorsqu'elle rencontre son futur mari sur son lieu de travail, elle est standardiste. Elle croit se trouver face à un homme qui n'est pas un homme comme les autres, dans le sens où il ne la remet pas à sa place lorsqu'elle affirme une certaine force, lorsqu'elle affirme une égalité entre les sexes. Donc tout se passe bien jusqu'au moment du mariage, finalement. Lorsqu'elle épouse cet homme, elle s'aperçoit très vite qu'elle devient une esclave de son désir. Il a un emploi du temps très chargé et elle est à sa disposition en tant finalement qu'objet sexuel. Elle est un meuble et cette situation, bien entendu, ne la satisfait absolument pas. Et finalement, elle va chercher ailleurs, en dehors du foyer, à se distraire dans un premier temps. Elle fréquente des hommes, plusieurs hommes, avant de trouver, j'allais dire, le bon ou le mauvais, ça dépend, parce que ça va évidemment finir en drame, parce que c'est finalement pour elle la seule manière qu'elle envisage de rompre définitivement les barreaux de sa prison, si on veut, dans la mesure où le divorce n'est vraiment pas une solution d'un point de vue financier. Elle a une fille à entretenir. Elle ne voit pas d'échappatoire à sa situation, sinon commettre l'irréparable et dans le même temps commettre ce meurtre-là, c'est symbolique, mettre un terme définitif, sans retour possible, à cette domination masculine, patriarcale.
Oh, Charlie. Charlie, what should I do?
Que faire?
I know that world.
Je connais ce monde.
And I know his world.
Et je connais le sien.
And that makes me a woman of two worlds.
Je suis une femme entre deux mondes.
And that's not good.
Avec lui, j'existe vraiment. Je suis une femme à part.
Elle fut damnée par le clergé pour avoir dégradé Dieu au lit. Bénie par les prostituées pour avoir élevé Dieu au lit. Enviée par les simples d'esprit. Applaudie par les psychotiques. Fuie par les saints. Dévorée par les lecteurs des tabloïds à scandale.
Il est très frappant de voir que lorsque la vie finalement de Ruth Snyder, de son mari et puis de son amant Judd Gray, cet homme finalement assez banal, timoré, a priori, qui est un simple vendeur de corsets. Lorsque le destin de tous ces personnages bascule, le soir du meurtre, on suit les deux amants qui planifient leur couche, un cas de leur côté. Judd Gray pénètre dans la maison des Snyder et attend. Et de son côté, Ruth Snyder entraîne son mari loin de la maison, la fait boire et donc le ramène déjà dans un état plus ou moins second pour qu'il soit plus facile de passer à l'acte, pour qu'il soit plus facile de le tuer. Et là, on a une séquence absolument épouvantable, notamment par le choix des armes. Je dis bien des armes parce qu'il y a trois méthodes qui sont prévues pour tuer Albert Snyder. Et il y a notamment du chloroforme et puis un contrepoids, mais aussi du fil de fer. Et on a une scène très, très forte où le couple d'amants s'acharne longuement sur le pauvre directeur artistique qui est dans un état déjà second, à moitié dans le sommeil, à moitié ivre. Et on essaie d'abord de l'assommer, ensuite on l'administre du chloroforme et ensuite on l'étrangle péniblement à deux ou trois reprises. Et Ruth Snyder confond en fait la respiration qu'elle croit être celle du mourant qui tarde à mourir et donc elle force toujours davantage pour ne plus entendre ce bruit de respiration absolument affreux. Et en fait, elle s'aperçoit que c'est pas la respiration de son mari, mais celle de son amant qui est à côté.
What would you do if you were governor? Vous avez lu des articles sur tous les aspects de cette incroyable affaire. Vous avez formé des opinions et discuté du meurtre de Albert Snyder avec des parents et des amis. Quelles sont ces opinions? Write it in not more than 100 words and send it to the What Would You Do editor, The News. 25 Park Place, New York City. Écrivez-le en moins de 100 mots et envoyez-le au rédacteur en chef. Men who favor the chair for Mrs. Ruth Snyder. Homme favorable à la chaise.
Henri Feinstein, commission de la fonction publique. Nous sommes moralement fous dans une certaine mesure, mais la folie morale en tant que défense n'est pas reconnue par nos tribunaux. Et le psychopathe doit subir la peine complète prévue par la loi.
Women who favor clemency for Mrs. Ruth Brown Snyder. Femme favorable à la clémence.
Miss Pat Curtis, employée. Il y a 5 ans, Ruth ne se doutait pas qu'elle serait là où elle se trouve aujourd'hui, en attendant la mort. Nous ne savons pas où nous serons dans 5 ans, et nous ferions mieux d'être prudents. Et une femme qui dit qu'elle va appuyer sur le commutateur est pire que Ruth.
Friday, November 25th, 1927. Ruth must die. Reader's verdict.
Ce qui va transparaître vraiment beaucoup dans la presse, ce sont Les points de vue divergents entre les hommes et les femmes face à la sanction qui doit être celle du couple, et notamment de Rolf Schneider. Dans ces sondages, on montre que les femmes et les hommes n'ont pas la même position par rapport à l'affaire. Bizarrement, dans un premier temps, on voit que les femmes sont plus promptes à vouloir l'exécution de la coupable. Ça se renverse et finalement, la majorité des femmes sont pour la transformation de la peine, en fait, tout simplement, en prison. Ce qui est sûr, c'est que le cas Ruth Schneider a entraîné son débat sur la peine de mort. Et ce débat sur la peine de mort a été mis en relation avec un débat qui avait déjà eu lieu une vingtaine d'années auparavant, lorsqu'une femme a été exécutée sur la chaise électrique dans l'État de New York en 1909.
Alors, Schneider, ce qui rend vraiment l'affaire très importante, c'est que c'est déjà effectivement une cause célèbre. Elle correspond aussi à un moment où la presse joue un rôle important. Dans les années 20-30, malgré l'émergence de la radio, c'est toujours la presse qui fait vivre les affaires pénales.
Simon Grivet.
On a déjà eu effectivement quelques femmes condamnées à mort et exécutées au 19e siècle, un petit peu au début du 20e, mais ça restera. C'est-à-dire que, d'une part, les femmes meurtrières sont rares, statistiquement, et ensuite, elles bénéficient toujours de cette espèce de esprit, entre guillemets, chevaleresque, très genré, qui consiste à dire « Ah, on va quand même pas exécuter une femme ». Ceux qui hésitent le plus à le faire, ce sont les gouverneurs. C'est-à-dire que dans la plupart des États américains, et dans l'État de New York aussi, la dernière personne qui peut intervenir pour sauver un condamné, c'est le gouverneur. Et souvent, on constate, encore aujourd'hui, hein, que les gouverneurs ont la main qui tremble quand il s'agit d'envoyer une femme à l'exécution. Alors après, le cas Schneider est intéressant dans le sens où il se déroule à un moment où cette dimension genrée commence à osciller un peu. 1920, les femmes états-uniennes ont le droit de vote. Et on trouve dans les courriers, parce que les citoyens états-uniens écrivent énormément au gouverneur quand il y a une affaire criminelle qui les intéresse. Le plus souvent pour demander une grâce, en disant « bah mon pasteur m'en a parlé dans ma communauté, on m'a fait passer une pétition, etc. J'ai lu dans les journaux, je suis sûr qu'il ou elle est innocent, etc. » Mais parfois aussi pour dire « mais vous avez bien raison, il ne faut pas intervenir, etc. » Et à partir des années 20-30, on commence à avoir des lettres de gens qui disent « c'est pas parce que c'est une femme que vous devez l'épargner. »
Millions of words were written about her during the trial. She was tagged the Granite Woman. The bloody blonde, the sex maniac, the drunk, the whore, Joan of Arc, the martinet, whose orgies held her putty man, lover in bondage.
À chaque fin de séance au tribunal, les journalistes écrivaient tout et son contraire à son sujet. Elle fut surnommée la femme de granit, la sainte, l'obsédée sexuelle, l'alcoolique, la pute, la blonde sanglante, la Jeanne d'Arc ou le fouet qui avait maintenu son amant médiocre à l'état d'esclave.
The Brooklyn Daily Eagle, Monday, May 9th, 1927. Mrs. Schneider branded serpent, Gray cringing coward.
Mrs. Schneider le serpent, Gray le lâche.
Daily News. Saturday, December 3rd, 1927.
Men would save Judd as lured on by siren.
Les hommes pourraient sauver Judd, séduit par la sirène.
When Judd Gray sat in the witness chair,
lorsque Judd Gray s'est assis dans le fauteuil du témoin et a dit, elle a planifié le meurtre.
He evidently scored a 10 strike in the heart.
Il a marqué 10 coups dans le cœur et l'esprit du grand public.
Imagine a little place out in Queens, in a frame of tall evergreen, where a couple dwells mid this happiest of scenes.
Il l'appelait Ruthie, elle l'appelait Al.
Elle était un peu plus ce qu'un pote. C'était le genre de fille un peu paresseuse, un peu fatale. Mrs. Ruth Snyder avait là un homme riche, un beau diamant et un manteau tout neuf.
Mais sous cette robe, elle s'ennuyait. Et quand elle a entendu parler d'une soirée, elle est partie en douce par la petite porte. Là-bas, elle a rencontré Gray. Il était un peu libertin, juste son type de mec. Elle a rencontré Mr. Wynn, Mr. Watt.
Tu pourrais être un nouveau Ford, dit-elle. Moi, c'est Judd. Non, c'est Mud, la boue. Elle part avec le vendeur de corsets.
On passe du temps ensemble.
Je t'aime et je m'ennuie.
Je t'aime et je m'ennuie. Qu'est-ce qu'on va faire?
On va tuer Al.
Alors, l'histoire de Ruth Snyder, Sam l'a, a voulu le faire. Et beaucoup de gens se sont inspirés de cette histoire. Et pendant qu'elle était en prison, elle a eu des lettres d'amour, des propositions de mariage. Et James Cagney s'est inspiré pour écrire « Le facteur sonnera toujours deux fois ».
Alors Snyder, c'est votre voisin finalement, qui tout d'un coup se retrouve au centre de cette affaire criminelle et qui remet en cause un certain nombre de choses, notamment cette idée de société patriarcale, cette idée d'une société à laquelle, dans laquelle la femme doit être soumise à l'homme. Et la presse, dans le cas de l'affaire Ruth Snyder, va régulièrement mettre le doigt sur certains éléments qui sont inscrits dans le procès, dans la défense de Judd Gray, qui prétend qu'il était hypnotisé, qu'il était soumis à son amante, qu'il était impossible d'échapper à son emprise. C'est cette idée-là. Donc il y a une idée qui se forme très vite dans le procès, que c'est une sorte de succube, finalement, qui exploite la faiblesse de l'homme, en renversant les rôles, d'ailleurs, qui était au sein de son couple. Hein. Et ça, c'est quelque chose qui va servir un peu de tremplin pour la presse.
L'histoire de la veuve est fausse. Gray dit la vérité, estime les jurés. Widow's story, faux pas, and Gray's the truth, elle sanglote. Lui, guilty, est impassible. She sobs. He is stolid. Daily News, Tuesday, May 17th, 1927. Ruth Judd entered Death House.
Madame Snyder et Gray sont reconnus coupables au premier degré dans un verdict rapide. Les deux sont condamnés à mort. Ruth et Judd pénètrent dans la maison de la mort.
Chicago Daily Tribune, January 13th, 1928. Woman goes to chair first. Prayer on lips.
La femme va sur la chaise en premier, une prière sur les lèvres.
Le sourire de Ruth Snyder s'est effacé dans l'ombre de la chaise.
Un petit peu avant l'exécution, le rédacteur en chef du Daily News a eu l'idée de faire appel à quelqu'un pour prendre en photo la pauvre condamnée à mort au moment d'exécution. Ce qui s'était jamais fait, et ce qu'on peut très bien comprendre pourquoi d'ailleurs, bien sûr c'était interdit, strictement interdit, on imagine bien, les appareils photo étaient tout simplement proscrits. Le fait est que le Daily News ne pouvait pas envoyer sur place un photographe qui se serait fait passer pour un journaliste, parce que ses collègues l'auraient reconnu tout de suite. Donc on a fait appel à un journaliste du Chicago Tribune, qui est venu exprès, à qui on a confié un petit appareil photo qu'il a accroché à sa cheville, donc dissimulé sous son pantalon. L'appareil photo était relié à un déclencheur qui se trouvait dans sa poche. Et on lui a demandé de se rendre à l'exécution et de se placer, c'était indispensable, au premier plan pour pouvoir prendre un cliché, un seul cliché, au moment le plus vital, disons, au sens propre, c'était au moment de la deuxième décharge électrique. Donc la photo a été prise et la photo s'est retrouvée en une du Daily News le jour de l'exécution pour une édition spéciale du Daily News avec ce titre extrêmement fort, fort parce que simple et très gros, bien sûr, c'est morte, dead. Cette photo est une première. Et aussi une dernière, d'une certaine manière, parce que quand la photo a été dévoilée, dans toutes les prisons, on a pris des précautions et on a fait en sorte de changer les éclairages pour qu'il ne soit plus possible de prendre des clichés avec les appareils photo de l'époque. Personne d'autre, ensuite, ne s'est engouffré dans cette brèche et essayé de reproduire ce scoop. La photo est fort, bien entendu, parce qu'on saisit le moment où le courant passe, on saisit le moment où Ruth Snyder s'achemine vraiment vers la mort, même si elle est masquée, donc si on ne voit pas son visage. Néanmoins, elle est extrêmement forte, extrêmement choquante. Elle a été reproduite une fois en une de Daily News le jour même. Elle a été reproduite le lendemain également de Daily News, mais là, pour toutes les éditions du jour. Donc elle a été quand même largement exploitée. Ça a fait accroître le tirage du journal de manière exponentielle le jour même et le lendemain, bien entendu. Ça fait du papier, c'est moins qu'on puisse dire. C'était fait pour, de toute façon, bien entendu.
Mon mari, il a dit à son éditeur du journal, c'est la première et dernière fois que je veux voir quelqu'un mourir sur une chaise électrique. Il a dit, c'était tellement hallucinant, on sentait la brûlure de la chair de la personne. Il était au premier rang de l'exécution et il voulait plus aller écrire sur des chaises électriques. Ça lui a laissé une telle impression d'horreur. Et il a dit à son éditeur, donnez-moi un lynchage, n'importe quoi, mais plus de chair électrique.
La première exécution à laquelle j'ai assisté, à la fameuse prison d'Ossining, est resté gravé dans ma mémoire. Seules quelques personnes étaient autorisées à entrer dans la salle d'observation. Comme j'étais le plus petit, le directeur de la prison, Lewis Laws, m'a fait asseoir au premier rang. Le condamné est entré après sa dernière marche et s'est assis sur la grande chaise en bois. Des fils électriques étaient branchés sur sa tête et sur l'une de ses jambes. Un gardien a fait un court discours et un autre a branché le courant. Trois chocs puissants ont heurté le corps comme un train à vive allure. Son corps a commencé à trembler, sa peau est devenue pourpre, puis bleue, et de la fumée a commencé à sortir de sa peau. Bon Dieu, il s'est mis à brûler sous nos yeux. L'odeur de la chair humaine carbonisée est quelque chose qui arrive tout droit de l'enfer. J'en tremble rien que d'y repenser.
Moi, j'avoue que j'ai rencontré pas mal de grands cinéastes, noirs, ouais, mais je n'ai jamais rencontré un personnage comme Fuller. Enfin, je me demandais d'où cet homme de petite taille pouvait tenir cette énergie, cette force, ce dynamisme. Pour moi, c'est absolument miraculeux. C'est d'abord miraculeux qu'il ait survécu.
Revenir à Paris aurait dû être l'antidote au ressentiment que je pouvais encore entretenir vis-à-vis de Hollywood. Mais je ne pouvais pas échapper à moi-même. Je me promenais tôt chaque matin, prenais mon café et lisais le Herald Tribune. Je finissais par m'attarder durant des heures le long des quais de la Seine, mon journal dépassant de la poche de mon imperméable, réfléchissant au passé et à l'avenir. J'avais l'impression de disparaître dans le néant. Puis, il y a votre troisième visage. Personne ne peut le voir. Il se dérobera toujours au miroir, restera invisible aux yeux de vos parents, de vos amants ou de vos amis. C'est le visage que personne ne connaît, sauf vous. C'est votre vrai vous. Toujours dans le secret de vos peurs les plus profondes, de vos espoirs et de vos désirs, votre troisième visage ne peut pas mentir, et vous ne pouvez pas lui mentir.
Je veux te parler d'une fille. Tu sais, elle vit dans la chambre 29. Pourquoi ? Pourquoi ? Je l'entends marcher pieds nus sur les lattes du plancher, tout au long de cette nuit solitaire. Je l'entends pleurer aussi. Les larmes chaudes fuyant à travers les fissures viennent éclabousser mon visage. Je les attrape dans ma bouche. 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 Marche et pleure. Marche et pleure. Marche et pleure. Je marche et pleure.
Peut-être fait-on un film pour exorciser de vieux démons. Votre histoire commence alors à vous faire grincer des dents à nouveau. Les images que vous préparez vous tourmentent, telles celles de pauvres poulets enfermés dans des cages sombres sous des lumières rouges, annonciatrices de mort. De retour à Paris, je ne touchais plus le sol. Je me suis plongé dans les années 20. Je n'avais que 16 ans quand Ruth a été envoyée sur la chaise électrique. J'avais par conséquent besoin de fouiller très vite dans ma mémoire et d'être aussi précis que possible vis-à-vis des faits. Mon cerveau bourdonnait. Des images, des scènes et même des odeurs, à la manière de Proust, me revenaient. Mes vieilles mains ont recommencé à taper sur ma Royal. Les voisins qui passaient sous nos fenêtres entendaient le tap-tap de la machine à écrire et poursuivaient leur chemin sans bruit, car ils savaient que j'étais trop absorbé pour bavarder. Développer un film à partir de zéro était ce que je préférais faire. J'ai travaillé sur un traitement qui recréait l'atmosphère incroyable entourant le procès pour meurtre au premier degré, opposant l'État de New York à Ruth Snyder. Toujours sur mon nuage, j'ai envoyé un traitement de 112 pages à Demme et Scorsese. J'étais intimement convaincu que le film sur Ruth se ferait.
Je lis son journal intime sur ses draps, scrutant chaque petit morceau de saleté. Hors de son cauchemar, d'elle à l'éternité, d'elle à l'éternité. Pleure, pleure. Pleure. Elle porte ses bas bleus, je parie. Elle se tient comme ça, l'oreille tendue vers le plafond. Écoutez. Marche et pleure. Agenouillez-vous et pleurez. D'elle à l'éternité. D'elle à l'éternité.
On avait rendez-vous à Paris après avoir été à New York chez Jonathan Demme. Scorsese et Jonathan Demme voulaient produire le film. Ils nous ont organisé un rendez-vous avec Tom Pollock, qui était le président des studios Universal. Et Tom Pollock a dit qu'il ne voulait pas faire une histoire d'époque, qu'il voulait faire un thriller. Et donc, le projet de Ruth Snyder est tombé à l'eau, même avec Jonathan Demme et Martin Scorsese. C'est triste parce que c'est une très belle histoire. D'abord, il pouvait exorciser la vision de ce qu'il avait vu, un homme mourir sur une chaise électrique. Ça l'a hanté toute sa vie.
Alors, donc ce cliché très célèbre, on voit les pieds de Snyder qui sont un peu tournés vers le centre, qui évoque évidemment la souffrance. On voit ses chevilles qui sont entravées, bien entendu, sur la chaise. Ensuite, on perçoit deux jambes. Elle a une robe. On voit ses deux bras qui sont manifestement attachés sur la chaise. Son visage est masqué et il semble bien qu'elle ait un casque sur la tête pour l'électrode. Et on voit derrière le reste de la chaise qui apparaît un petit peu comme un cadre qui semble là presque l'enfermer, quoi. Donc on voit cette chaise, on voit cette femme complètement déshumanisée du fait de l'absence de son visage finalement. Et on perçoit effectivement cette souffrance, ce moment de mise à mort.
Une dent noircie, un brouillard écarlate. Les murs sont mauvais. Le noir, le souffle malade, ils sont le souffle malade, ils sont le souffle malade qui s'accumule dans mon ventre. J'entends des histoires de la chambre, comment le Christ est né dans une mangeoire, et comme un étranger en lambeaux, mort, sur la croix. Il était charpentier de métier. Au paradis, son trône est fait d'or. Ici, c'est fait de bois et de fil de fer. Et mon corps est en feu. Et Dieu n'est jamais loin.
Dans ce portrait du pape par Francis Bacon, on voit également une chaise. Alors, il y a des couleurs, elles sont jaunes. La chaise est jaune, très frappant. Tandis que le pape lui-même apparaît dans une robe blanche et un haut violet. Et comme dans le fameux cliché de Snyder, les deux bras semblent attachés aux accoudoirs de la chaise, même s'ils ne le sont pas. Et surtout, le visage est déformé par la douleur. On voit une bouche ouverte sur un visage violet, clair. Voilà, on n'est plus dans un personnage humain. On a l'impression vraiment d'une créature mythologique, une goule ou quelque chose. C'est tout à fait frappant comme représentation. La chaise donne l'impression d'être un trône avec ses... pointe dorée derrière et la couleur dorée qui suggère la majesté. On a l'impression effectivement de quelqu'un qui est à la fois dans la souffrance et dans la majesté.
Sur le siège de la miséricorde, je grimpe. Ma tête est rasée. Ma tête est câblée. Et comme un papillon de nuit, qui essaie d'entrer dans l'œil brillant. Alors je sors de la vie, juste pour me cacher dans la mort.
La fleur du mal de Samuel Fuller. Avec les voix de Paul Bangui, Kate Moran, Prudence Castelot, Romain Arduin et Augustin Guillot. Et la participation de Christa Fuller, Franck Laffont, Jean Narboni, Simon Grivet et Jérôme Carine. I am vengeance and forgiveness. Coordination pour l'expérience, Aurélie Charon avec Inès Duperron. Prise de son, Sébastien Royer et Philippe Mercher. Mixage, Guillaume Ledu. Une création sonore de Ludovic Chavarot, réalisée par Céline Terce. Merci à Justin McIntyre.
On se retrouve dimanche prochain à 22h dans l'expérience avec la série Imaginaire. Victor Timonier a invité des élèves de 4e à Pantin, près de Paris, à dessiner la carte de leurs imaginaires. Ils ont créé 4 mondes et y naviguent. En attendant, il sera bientôt 23h, vous écoutez France Culture et c'est l'heure des nuits.